Éclairage. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Myriam Lemaire.
Madame, Monsieur, bonjour. Dans la série de nos émissions consacrées au rapport du Sénat, j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui à Canal Académie Monsieur Robert Delpicchia, sénateur représentant les Français établis hors de France, vice-président de la Commission des Affaires étrangères, de la Défense et des Forces armées, membre de la Commission des Affaires européennes du Sénat. Monsieur le sénateur, bonjour et merci d'avoir accepté l'invitation de Canal Académie, une radio dont 40% des auditeurs se trouvent à l'étranger. Monsieur le sénateur, vous avez été journaliste et rédacteur en chef de radio en Autriche, je crois, avant d'être élu sénateur en 1998, puis réélu sénateur en 2008. Dans le cadre du suivi par la délégation européenne du Sénat du processus d'élargissement de l'Union européenne, vous avez été désigné pour suivre les progrès réalisés par la Turquie sur la voie de l'adhésion. Avec le sénateur Hubert Haenel, président de la délégation, vous avez publié deux rapports d'information consécutifs à des missions effectuées en Turquie en 2004 et en 2005. Vous avez accompli une troisième mission en Turquie en mai 2008 et publié au mois de juin un nouveau rapport intitulé « L'Union européenne et la Turquie à la veille de la présidence française ». J'aimerais, avant d'aborder l'état des négociations avec la Turquie et les relations franco-turques et les questions européennes, vous demander quel est le rôle et quel est le mode d'élection des sénateurs, ils sont 12 je crois, représentant les Français établis hors de France, ces Français à l'étranger ou ces Français de l'étranger, auquel Canal Académie a consacré une émission en juin 2008 en rencontrant M. Alain Catta, qui est directeur des Français à l'étranger au Quai d'Orsay et que je crois vous avez bien connu en Autriche. La représentation politique de ces Français est une spécificité du Sénat. Pouvez-vous nous dire pourquoi ?
Alors oui, d'abord, j'ai eu M. Catta comme ambassadeur à Vienne, puisque je vis la moitié du temps à Vienne et l'autre moitié à Paris, si je ne suis pas en voyage, donc, comme vous le dites, en Turquie ou ailleurs. Alors, les sénateurs des Français à l'étranger, eh bien, c'est un sénateur un peu particulier, puisque, en fait, il ne représente pas de collectivité territoriale comme le sont les sénateurs du territoire français. L'article 24 de la Constitution disait à peu près ceci, jusqu'à il y a très peu de temps, nous l'avons changé l'année dernière, disait que le Sénat représente les collectivités territoriales et les Français de l'étranger. Alors depuis, ça a été un petit peu modifié, puisque dans ce même article, on peut y lire que les Français de l'étranger sont représentés à l'Assemblée nationale et au Sénat. Donc dorénavant, c'est-à-dire en 2012, il y aura des élections pour les députés des Français de l'étranger. Pour l'instant, en tout cas, cet article 24 de la Constitution instituait les sénateurs des Français de l'étranger. Alors ces sénateurs, puisqu'ils n'ont pas de territoire, comment sont-ils élus ? Eh bien, ils sont élus par des grands électeurs. Donc ce n'est pas une élection au suffrage direct, mais indirect. Donc ce sont les grands électeurs. Alors qui sont ces grands électeurs ? Eh bien, ce sont des personnes qui sont élues localement dans les pays de résidence des Français. À travers le monde. Il y a 155 grands électeurs qui sont répartis à travers le monde selon la population française du pays. Par exemple, en Belgique, où il y a beaucoup de Français, il y a 5 représentants, mais dans certains pays où il y a peu de Français, il n'y en a qu'un. Ou quelquefois, d'ailleurs, un grand électeur pour plusieurs pays. Ces grands électeurs élisent, comme les autres sénateurs, le même jour, la même année, élisent les sénateurs des Français de l'étranger, qui jusqu'à présent étaient renouvelés par tiers et qui, la prochaine fois, seront renouvelés par moitié, comme le Sénat. Un sénateur des Français de l'étranger a un mandat qui est exactement le même que celui d'un sénateur du territoire français, c'est-à-dire qu'il participe à tout, il vote tout, il s'occupe de tout dans tous les domaines, mais en plus, disons qu'il a un regard particulier et qu'il a en charge les Français qui résident à travers le monde à l'étranger.
Très bien, je vous remercie pour ces précisions utiles, intéressantes. Nous allons aborder ensuite votre rapport et la question turque. Je rappellerai simplement qu'en introduction de votre rapport, vous soulignez que malgré la décision des États membres de l'Union européenne d'ouvrir les négociations d'adhésion avec la Turquie le 3 octobre 2005, la candidature de ce pays continue de susciter des débats passionnels en Europe et particulièrement en France. Alors, pourquoi cette question est-elle aussi polémique, et notamment dans notre pays, alors que l'Union européenne s'est élargie à 27 pays déjà ? Pourquoi cette réticence, et le mot est sans doute faible, à l'égard de la Turquie ?
Oui, vous avez raison, parce qu'en fait, on aurait pu penser que la population européenne, des 15 pays donc de l'Union européenne, accepterait mal l'élargissement vers les autres pays. Ça s'est passé plus facilement que ce que l'on croyait, bien qu'il y ait beaucoup de problèmes. Vous le savez, il y en a eu au début, il y en a un peu moins maintenant, encore que la crise économique mondiale et financière mondiale risque d'ajouter un peu à ces problèmes. Mais on aurait pu penser que les Français se seraient concentrés sur cet élargissement un peu trop grand à la fois, en tout cas, qui aurait pu se faire par étapes. Et disons que le Français moyen est un peu affolé, entre guillemets, de voir arriver tous ces nouveaux pays dans l'Union européenne. Finalement, ça se passe mieux que ce que l'on redoutait, mais bizarrement, au lieu de se préoccuper de cet élargissement, les Français se sont préoccupés de la Turquie, alors que la Turquie n'était pas en question encore pour un élargissement, puisque tout le monde sait qu'il y a une demande d'adhésion qui va, disons, les travaux de l'adhésion, ou en tout cas les développements en ce qui concerne l'adhésion, vont durer. Alors certains disent 10 ans, d'autres 12, voire peut-être même 15. Rappelez-vous, pour les entrées de l'Espagne ou de la Grèce, ça a pris aussi beaucoup de temps. Je ne parle pas de la Grande-Bretagne, puisque rappelez-vous qu'en 1963, le général de Gaulle avait rejeté la Grande-Bretagne. Et donc tout a duré un temps relativement long. Alors pour la Turquie, ça peut être la même chose. Donc on pourrait penser que les Français pourraient se dire, eh ben écoutez, finalement, on verra dans 12 ans, dans 15 ans. Vous savez, qu'est-ce qui se passe dans 15 ans ? 15 ans après l'effondrement de l'Union soviétique et des pays de l'Est de l'Europe, du mur de Berlin et de l'entrée de ces pays dans l'Union européenne, personne n'aurait parié un zloty, un kopeck ou je ne sais pas quoi sur l'entrée de ces pays dans l'Union européenne. 15 ans avant, 1989, personne n'y pensait, et même d'ailleurs 2 ans avant. Et si aujourd'hui les gens vous disent « Ah, mais j'avais prévu l'entrée de ces pays dans l'Union européenne », ils vous racontent des histoires parce que personne ne pensait et personne n'y croyait. Et personne ne l'espérait même. Alors pour la Turquie, c'est un peu la même chose. Alors pourquoi avoir, vous dites, ces réticences, moi je dirais un peu plus loin, cette levée de bouclier contre l'entrée de la Turquie dans l'Union européenne. Alors, difficile de tout analyser, mais il y a plusieurs facteurs. Il y a d'abord le facteur des... Alors ça, c'est un facteur relativement simple. C'est l'entrée de la Turquie dans l'Union européenne. La Turquie n'est pas un pays d'Europe. Bon, ça, c'est un argument qu'on vous donne généralement en premier. On vous dit, mais que vient faire la Turquie dans l'Europe ? Moi, je voudrais citer Stefan Zweig, ce célèbre auteur tchéco-autrichien, puisqu'à la fin, il était autrichien, qui disait « Byzance, sacrée aux yeux de l'Occident par 10 siècles de civilisation commune, représente pour l'Europe un symbole et son honneur. » Vous voyez qu'on a évolué dans l'autre sens depuis Stefan Zweig. Alors, est-ce que la Turquie est européenne ou pas ? Istanbul est européen, puisque si on regarde géographiquement parlant, il est vraiment dans l'Europe. Mais où sont les frontières de l'Europe aujourd'hui ? Qui peut définir aujourd'hui les frontières de l'Europe ? Plusieurs s'y sont attelés et n'ont pas apporté les solutions. Pour le général de Gaulle, c'est l'Europe jusqu'à l'Oural. Pour Valéry Giscard d'Estaing, ça n'allait pas aussi loin, ça s'arrêtait avant Byzance, avant Constantinople. Pour d'autres, il n'est pas question d'élargir l'Europe à plus que ce qu'elle n'est aujourd'hui. Or, les pays voisins que l'on connaît, Moldavie, Ukraine et autres, pourront peut-être un jour prétendre à entrer dans l'Union européenne, mais on n'en est pas là et on en est encore loin. Donc, l'aspect géographique. Deuxièmement, il y a l'aspect de la population. Certains vous font remarquer que finalement, voir entrer les Turcs dans l'Union européenne, ça voudra dire voir le plus grand pays en population de l'Union européenne être la Turquie, ce qui implique un nombre de députés au Parlement européen plus important que les députés de l'Allemagne. L'Allemagne a 80 millions d'habitants à peu près, et la Turquie devrait avoir, à l'époque, dans 10 ans, 15 ans, si la démographie continue, 80 ou 81 millions d'habitants. Ce serait donc plus important que l'Allemagne. C'est ce qui effraie un peu les gens de voir un très grand pays, une grande population, entrer dans l'Union européenne. Alors certains vous disent aussi, dans ce contexte de la population, que cette population, si elle entre, si l'adhésion se fait complètement, un bon nombre de cette population pourra venir, liberté de circulation des personnes, dans l'Union européenne et s'installer aujourd'hui dans l'Union européenne. Si vous regardez de près cet argument, en Allemagne, il y a des centaines de milliers, voire millions même, de Turcs qui sont déjà installés, qui sont devenus d'ailleurs pour certains Allemands, pour d'autres non. Mais il y en a aussi pas mal en France, puisque je crois qu'il dépasse les 400 000 maintenant. Il y a des catégories de population où la population turque est importante. Regardez dans l'est de la France, par exemple. C'est peut-être lié aussi à l'Allemagne. Ça, c'est le facteur population. Il y a un troisième facteur, c'est le facteur religion. Et ça, c'est un facteur très sensible et qui est facilement mis en avant par les médias, qui trouvent là un argument à développer très facile, puisque la population amplifie ce que les médias peuvent dire. Et ce facteur religion est un facteur qui effraie un peu un certain nombre de Français, parce qu'ils voient à travers ce facteur religion l'islam. Or, ils savent aussi qu'il y a en France près de 5 millions de personnes de religion musulmane, et ils s'imaginent voir se développer cette religion pour devenir très importante, voire même peut-être un jour plus importante que la religion chrétienne. Donc, si vous voulez, c'est un peu les origines judéo-chrétiennes qui ressortent et qui effraient un peu le subconscient qui veut que, si on regarde un peu l'histoire de la Turquie et de l'Europe, il y a quand même eu les tentatives d'invasion de l'Europe par les Turcs. Tout le monde se souvient de l'arrêt des Turcs par Sobieski aux alentours de Vienne en 1683, je crois, si je ne me trompe, sur les Balkans et autres. Donc il y a un peu cette peur, entre guillemets, de voir une importance des Turcs trop grande sur le plan religieux en Europe. Et donc ça, c'est un facteur qui se développe très facilement auprès d'une population qui n'a pas beaucoup réfléchi à ce que ça pourrait être ou à ce que, est-ce qu'il y a danger de voir l'Europe devenir musulmane. Je crois qu'on pourrait poser la question brutalement comme ça. Moi, je n'y pense pas et je n'y crois pas du tout, d'ailleurs. En fait, l'Europe arrive quand même, surtout en France, à avoir... Mais la France est plus touchée que les autres pays. C'est peut-être pour ça, d'ailleurs, que les... Si on regarde les pays en Europe qui sont résolument contre l'entrée de la Turquie, vous avez l'Autriche, que je connais bien, parce que l'Autriche a connu, justement, les Turcs, parce que l'Autriche a un nombre important d'immigrés turcs en Autriche, et qu'il y a ce rejet de voir ce danger, que je mets toujours entre guillemets, une arrivée massive d'immigrés turcs dans le pays. Donc s'il y avait référendum en Autriche aujourd'hui, je crois que le résultat serait même plus important qu'en France pour un rejet. Donc ça, ce sont des pays qui sont très touchés. Bizarrement, en Allemagne, on n'est pas aussi opposé que l'on est en Autriche ou en France.
Alors qu'il y a une population turque importante.
Mais justement, oui. Parce que cette population s'est plus ou moins intégrée, plus ou moins adaptée dans le pays et qu'elle est plus ou moins acceptée. Donc, nous sommes dans une situation un peu particulière, la France, et c'est très sensible. Et j'ajouterai un quatrième facteur, en dehors de la géographie, la démographie et la religion, c'est le facteur médiatique et politique en même temps. Parce que, pour des raisons électorales, j'ai presque envie de dire électoralistes d'ailleurs, je mets ça aussi entre guillemets, certains hommes politiques, de droite, de gauche, ont utilisé la Turquie à différentes occasions, pas comme épouvantail, mais comme argument électoral, à la veille du référendum, par exemple, sur l'Europe, à la veille d'élections municipales, etc., etc. Je crois que c'est à cause de... Si vous voulez, c'est pas un élément, mais ce sont tous les éléments ensemble qui font qu'il y a ce rejet.
Une combinaison d'éléments.
Une combinaison. Si vous voulez, ça s'ajoute. Tout ça s'ajoute. Et donc, il y a en France une majorité, je crois que c'est vrai, personne ne pourrait dire le contraire, et qu'un référendum montrerait qu'il y a une nette majorité contre l'entrée de la Turquie dans l'Union européenne. On n'en est pas encore là. Il n'y a pas de référendum. Il n'y en aura peut-être pas d'ailleurs. Et tout reste encore ouvert.
Je reviens à votre récent rapport, le dernier rapport donc vous avez fait au mois de mai dernier avec le sénateur Hubert Haenel, une troisième mission en Turquie. Donc quel était l'objet de cette troisième mission par rapport aux deux précédentes et pouvez-vous nous dire qui vous avez rencontré dans ce pays ?
Si vous voulez, l'objectif de ce rapport, des différents rapports d'ailleurs, c'est à la Commission pour les affaires européennes, nous avons mis en place un suivi des demandes d'adhésion pour les pays à l'époque de l'Est de l'Europe, mais aussi la Turquie. Donc, un sénateur était chargé d'un pays. J'ai hérité de la Turquie, parce que quand je suis arrivé, Michel Barnier quittait la présidence de la Commission et il m'avait dit « il faut que tu prennes un pays quand tu viendras et je te conseille de prendre la Turquie ». Parce que ça va être quelque chose qui va te suivre pendant plusieurs mandats et tu auras le temps de voir comment ça se passe, en plaisantant, bien sûr. Mais donc, je suis tombé sur la Turquie et j'ai accepté parce que je trouvais que c'était un défi à relever qui était intéressant. Parce que l'adhésion de la Slovénie, par exemple, était, à mon avis, quelque chose de très facile, puisque tous les critères étaient plus ou moins respectés et donc on savait que ça allait très bien se passer. Mais par contre, la Turquie relevait d'un défi plus difficile, plus long, mais aussi intéressant. Donc, l'objectif, c'est de suivre la demande d'adhésion. Comment ça se passe et comment les choses évoluent. Donc, je rappelle que la Turquie, depuis longtemps, a des liens avec l'Union européenne, puisque vous vous souvenez que, déjà par les accords douaniers, ça remontait à la fin des années 60, et on a eu beaucoup de...
Ça fait à peu près 40 ans,
disons. Et que c'est formellement, c'est en 87, le 14 avril 87, que la Turquie a demandé officiellement son adhésion. Donc 87 à 2009, vous voyez, ça fait quand même un certain nombre d'années. En 89, le 18 décembre, peu de temps après, la Commission européenne avait rendu un avis négatif, mais provisoire, sur l'ouverture des négociations. Donc, ça a duré très longtemps, si vous voulez. L'Union douanière est entrée en vigueur en décembre 1995, totalement, l'Union douanière. Et en 1999, c'est le Conseil d'Helsinki qui a prononcé une avancée décisive à la reconnaissance du statut de candidat de la Turquie à l'Union européenne, puisqu'il a réaffirmé le caractère inclusif du processus d'adhésion. Alors, la Turquie est devenue un pays candidat. La présidence française... En l'an 2000, donc c'était quand même les Français. C'est donc sous présidence française, la première présidence française en décembre 2000, qu'a été conclu le partenariat pour l'adhésion. Donc la France, vous voyez, n'était pas contre l'adhésion de la Turquie puisqu'elle l'a proposé à cette époque-là sous sa présidence. Et par le passé, elle a toujours été en faveur de l'entrée de la Turquie dans l'Union européenne. En 2003, on a révisé et on a mis un objectif général qui était celui d'offrir un programme cohérent dans les domaines politiques économique pour préparer la Turquie à l'adhésion. Alors, tout cela s'est fait, puis le Conseil de Copenhague en 2002, en décembre 2002, a ouvert ses possibilités. Donc, depuis cette époque-là, la Turquie prépare son adhésion, tranquillement, son adhésion à l'Union européenne. Donc, on suit, si vous voulez, depuis cette époque-là, ce qui se passe en Turquie et comment évolue cette demande d'adhésion et cette adhésion. Donc, vous voyez, c'est quelque chose qui prend du temps et, qui n'est pas facile, mais qui avance.
Merci, monsieur le sénateur, pour ce rappel historique de la candidature de la Turquie à l'Union européenne. Je voulais vous demander, qu'avez-vous constaté donc, en 2008 par rapport à votre précédente mission en 2005 concernant l'avancement des négociations d'adhésion de la Turquie à l'Union européenne ?
Bien, si vous voulez, il y a 35 chapitres à négocier, ce qui est très long. Et ça touche tous les domaines. La négociation véritable, c'est-à-dire les discussions entre les spécialistes de l'Union européenne et ceux de Turquie, n'ont vraiment débuté que le 3 octobre 2005, après la réunion du Conseil des ministres des Affaires étrangères de l'Union, donc, qui avait adopté un cadre de négociation. Donc, c'est depuis cette date-là que ça a avancé. Alors, comment on avance et est-ce que ça avance ? Si vous voulez, il y a des choses qui sont visibles et des choses qui sont moins visibles. L'ensemble de la mise en œuvre concrète et quotidienne des autorités publiques et administratives de ce que demandent les critères de Copenhague. Ça, c'est un peu difficile parce qu'on ne le voit pas toujours. On ne voit pas ce qui se passe vraiment. Si vous allez dans un tribunal, vous regardez est-ce que le procès se passe comme le souhaiterait l'Europe. Eh bien, malheureusement, non. Il faut bien le dire aujourd'hui, non. Parce que le président du tribunal vous explique qu'il ne peut pas appliquer exactement ce que dit l'Europe, parce que pas toutes les lois ont été transformées en loi turque, et qu'il est obligé de respecter la loi turque qui n'englobe pas encore les décisions européennes dans tel et tel domaine. Donc, vous voyez, sur chaque point précis, il y a toujours un peu des réticences à le mettre en place. Disons que quelquefois, il n'y a pas de vraie volonté à le mettre en place, il faut être honnête, dans certains lieux, dans certaines villes. Mais on avance, on a progressé, mais disons à un rythme relativement lent.
C'est ce voilà. que vous dénoncez dans votre rapport.
C'est un peu ce que nous dénonçons, puisque sur les 35 chapitres, je crois qu'il n'y en a que 6 aujourd'hui, donc, qui ont été ouverts. Il y en a un qui a été clos, on en a fait un, si vous voulez, et deux qui ont été ouverts récemment sur la présidence slovène. Donc nous en sommes à 6 plus 2.
Donc sur le processus 35. Est très lent.
Sur 35. Très lent. Donc vous voyez, et ça on l'a fait en quelques années. Donc vous voyez le temps qu'il faudra pour aller jusqu'au bout. Mais ce rythme, il est plus lent que les autres pays candidats de ceux de l'Europe de l'Est, pour simplifier. Là, ça allait beaucoup plus vite. Mais là, il y avait une volonté politique de l'Europe. Rappelez-vous, le président Chirac qui avait même annoncé l'adhésion en 2002, je crois. Il est allé un peu vite dans ses déclarations. Mais là, on voulait politiquement aller vite. Et d'ailleurs, qu'est-ce qu'on a fait pour aller vite? On a pris 10 pays ensemble. On n'a pas voulu fâcher certains pays. Donc, on a essayé de faire, allez, on fait un paquet commun et on met tout le monde dedans. Comme ça, personne ne se plaindra. Ceux qui ont été un peu retardés parce qu'ils pensaient venir avant, comme par exemple la Slovénie dont je parlais tout à l'heure, mais ceux qui provoquaient encore des difficultés, comme par exemple la Pologne, et on avait écarté que la Roumanie et la Bulgarie qui n'étaient pas prêtes et qui sont venues plus tard. Mais on avait mis tout le monde dans le même paquet. Donc la négociation allait plus vite. Et on a voulu aller plus vite pour des raisons politiques, pour montrer justement à ces pays que leur avenir était à l'Ouest, était en Occident, était dans l'Union européenne, était dans l'Europe. Et on essayait de faire oublier les 50 ans où ils n'avaient pas été vraiment européens. Et donc on a fait tout ce que l'on pouvait sur le plan politique pour les faire rentrer rapidement. Et donc on est allé quelquefois peut-être un peu trop vite sur certains chapitres, dans certains domaines. Et on en trouve des conséquences aujourd'hui où il y a quelques petits problèmes, quelquefois qu'il faut régler, pas partout, mais dans certains pays. Voilà, donc pour la Turquie, c'est un peu plus lent. Les chapitres sont ouverts, il n'y en a pas beaucoup, et ça va un peu durer. Alors, pourquoi ça dure? Bien, peut-être parce que cette fois, on fait tout ce que l'on doit faire. Les Turcs nous le reprochent quelquefois, d'ailleurs. Lors de notre visite auprès des autorités turques, on a entendu ces reproches, en nous disant, vous nous traitez différemment des autres pays européens, de l'Europe de l'Est, et disons, vous allez un peu trop loin, d'ailleurs, dans ce que vous nous demandez par rapport à ce que vous avez demandé aux autres. Et nous voulons être traités à égalité avec les autres. D'ailleurs, à plusieurs reprises, l'Union européenne et les hommes politiques européens ont dû affirmer que ce n'était pas le cas, qu'on les traitait de la même façon, mais que les choses étaient plus difficiles. Oui, c'est vrai que les choses sont plus difficiles, mais disons qu'il y a quand même une part de vérité là-dedans. C'est que, disons, c'est comme, vous savez, quand vous avez la grève du zèle, quoi. On regarde tous les points en détail, au lieu de passer rapidement sur les points. Voilà. Donc, c'est aussi une des raisons de la lenteur du processus. Et puis, il y a d'autres raisons. Vous avez des problèmes internes à la Turquie. Des problèmes de politique intérieure, par exemple, qui a freiné le rythme des réponses. Il y a eu des troubles politiques au printemps 2007, l'élection du président de la République, M. Gül, il y a des interventions de l'armée, des élections législatives anticipées. Tout cela, si vous voulez, s'ajoute et pose des problèmes. Et malgré le grand succès électoral de l'AKP, le parti majoritaire en Turquie, qui privilégie...
Qui est un parti musulman.
Oui.
Modéré.
Oui, alors, je ne sais pas si vous parlez de modéré ou pas modéré, mais un parti musulman, c'est vrai que c'est un parti qui a une tendance religieuse musulmane, mais qui n'est pas représentatif. Il y a des musulmans plus extrémistes au Parlement qui sont là. Mais c'est une majorité de ce qu'on a peu appelé les musulmans modérés, et qui est en faveur de l'Union européenne, en faveur de l'entrée dans l'Union européenne, qui est en faveur des réformes, et des réformes qui pourraient satisfaire la majorité de l'électorat. Mais dans ces réformes, il y a deux catégories de réformes. Il y a celles qui font plaisir à l'électorat, et puis il y a les réformes imposées par l'Union européenne qui ne leur fait pas trop plaisir. Par exemple, la loi sur le voile qu'ils voulaient avoir, qui a été annulée après par le Conseil constitutionnel. Il y a eu le recours en interdiction du parti AKP, qui a bloqué le fonctionnement de la vie politique et qui a amené l'AKP à renoncer à son projet de révision de la Constitution, qui était pour l'Union européenne un des vecteurs des réformes et du rapprochement avec l'acquis communautaire. L'Union européenne voulait cette réforme de la Constitution. Donc, vous voyez, il y a eu vraiment des problèmes de politique interne. Et donc,
qui ont ralenti, en fait.
Oui, qui ont freiné les efforts d'améliorer et d'aller vers ce que demande l'Union européenne. Donc, tout ça, il faut en tenir compte. Vous voyez, certains autres pays dans l'Union de l'Europe, dans l'Europe de l'Est n'ont pas connu ces problèmes. Voilà. Donc, si vous voulez, le bilan de tout ça, c'est que c'est moitié-moitié, je dirais. Le rythme des réformes était ralenti. L'Union européenne voit les choses assez négativement à cette époque-là, au moment où nous y étions. Ça a un peu évolué depuis, en disant que les réformes étaient inégales et que le rythme n'était pas suffisamment soutenu, puisqu'il s'était ralenti. Jusqu'en 2006, ça allait parfaitement bien. Il y avait beaucoup de réformes. Réforme de la monnaie, réforme d'une partie de la justice, réforme de beaucoup de choses, de l'économie. Ou d'ailleurs, sur l'économie, les Turcs ont fait beaucoup de progrès. Alors, voilà où on en était. Il faut rappeler peut-être que les critères de Copenhague, les critères politiques auxquels la Turquie doit répondre, c'est la liberté d'expression, la liberté de religion, avec la loi sur les fondations d'ailleurs, les relations entre le pouvoir civil et militaire, la réforme de la justice et le droit des minorités, en particulier la question kurde. Vous voyez, ces points-là sont des points sensibles. Et donc, il faut répondre à tout cela. Et ce n'est pas facile en Turquie de répondre à tout cela comme le souhaite l'Union européenne. Et d'ailleurs, on n'est toujours pas arrivé à avoir des réponses complètes à toutes ces questions. Mais il y a beaucoup de progrès qui ont été faits.
Monsieur le sénateur, je vous propose de marquer une courte pause dans notre émission et nous reprendrons dans un instant.
Alain Besançon, Renaud Denoy de Saint-Marc, Henri Amouroux, Pierre Mazot, Jean Tullard, Jean Béchler, Mireille Delmas-Marty, Jacques Delarosière, Jean-David Levitte, ces philosophes, économistes, historiens, diplomates et juristes partagent leur passion et leur vision du monde. Retrouvez les membres de l'Académie des sciences morales et politiques sur Canal Académie.
Madame, Monsieur, nous sommes dans le studio de Canal Académie en compagnie de Monsieur Robert Delpicchia, sénateur représentant les Français établis à l'étranger, vice-président de la Commission des affaires étrangères du Sénat. Et nous nous entretenons avec M. Robert Delpicchia de l'Union européenne et la Turquie sur le rapport qu'il a publié en 2008 et sur ses précédents rapports sur le même sujet publiés en 2004 et 2005. Monsieur le sénateur, vous évoquez aujourd'hui pour les auditeurs de Canal Académie l'état d'avancement des négociations d'adhésion à la Turquie. Pouvez-vous nous dire quelles sont les principales réformes intervenues en Turquie pour répondre aux critères politiques de Copenhague et également les réformes intervenues dans le domaine économique pour rendre viable cette économie, l'économie de ce grand pays? Ces réformes vous paraissent-elles suffisantes et quelles sont les principales améliorations à attendre?
Oui, le côté positif, si vous voulez, c'est surtout le respect par la Turquie des critères économiques de Copenhague. C'est là le point fort de la Turquie des dernières années. Alors, il y a des progrès économiques fort remarquables. D'abord, la Turquie a répondu à ce premier critère qui est l'économie de marché viable. Jusqu'à cette époque-là, ce n'était pas le cas en Turquie, qui avait des dettes impressionnantes avec le Fonds monétaire international, etc. Donc là, il y a eu de progrès importants. Il y a eu un redressement remarquable qui a été mené sous l'égide du Fonds monétaire international en 2001, qui a amené à une réforme pour renforcer la monnaie turque. La dévaluation courait tous les ans à des chiffres qui étaient de plus de 20% quelquefois. Et puis on a ramené cette dévaluation à un taux qui était relativement bas, puisqu'il y a eu des 6% de dévaluation, de perte de valeur de la monnaie. Mais on a fait les nouvelles monnaies turques qui devenaient une monnaie forte. Donc tout cela, c'est très bien fait, si vous voulez. On a eu un deuxième progrès important, c'est faire face à la pression de la concurrence et aux forces du marché. Donc là, il fallait mettre en place des réformes structurelles pour atteindre cet objectif. Et la Turquie l'a fait. L'économie turque s'est d'ailleurs bien développée. Sur un autre plan, le commerce extérieur, qui s'est beaucoup développé, la hausse des exportations était en excédent, pour la première fois depuis 2002, donc en 2006, et tout ça en dépit des augmentations du prix de l'énergie. Donc, si vous voulez, c'est une situation compétitive. La Turquie fonctionne bien sur le plan économique, elle exporte, il y a un marché viable, et tout cela répond aux critères de Copenhague. C'est le côté relativement positif, donc même, on peut le dire, très positif. Bon, il y a eu un ralentissement des échanges commerciaux à partir de 2007. Ils étaient en stagnation, il faut bien le dire. Mais la plupart des pays européens voyaient leurs échanges avec la Turquie s'amplifier pendant le même temps. C'est-à-dire la Turquie exportait moins, mais les Européens augmentaient leurs échanges avec la Turquie. Donc, si vous voulez, le marché turc vers l'extérieur se tournait vers l'Union européenne, ce qui était une bonne chose. Mais là, on a eu un problème, c'est la dégradation des relations entre la France et la Turquie. Nous allons peut-être en parler un peu plus tard. Là, il y a eu une baisse des exportations,
des échanges,
relations économiques, des relations, disons, privilégiées entre la France et la Turquie. Là, on avait de très bonnes relations et puis elles ont été un peu détériorées et en tout cas freinées. Donc, ça, c'est le côté relativement positif des critères de Copenhague auxquels la Turquie a pu répondre. Sur le plan politique, il y a toujours les problèmes qui demeurent, comme la liberté d'expression. Ça, c'est pas encore totalement respecté, bien que des progrès aient été faits là aussi. Je vous rappelle qu'il y a une télévision en kurde, que l'on peut s'exprimer dans une radio en kurde. En fait, tout cela, il y a des efforts de fait dans cette direction. Mais le droit des personnes, le droit des femmes en particulier, n'a pas été au niveau des demandes, ne répond pas aux demandes des critères de Copenhague. On n'en est pas encore là. La même chose pour la liberté de religion. Je ne parle pas de la question arménienne, qui est une question un peu à part, mais dans le domaine de la religion, ce n'est toujours pas le cas. Lors de notre visite, nous avons rendu visite au métropolite, nous avons rendu visite au patriarche à Istanbul, et nous avons eu des grandes discussions avec aussi le ministre chargé des relations avec les institutions religieuses. Mais on n'a pas trouvé là quelque chose qui répondait aux critères de Copenhague. On en est encore loin. La liberté de religion, on nous dit que la liberté de religion existe, mais rien n'est fait, au contraire, pour que cette liberté existe sur le terrain, si je puis dire.
C'est-à-dire
la liberté de pratique de la religion.
La Turquie est un État laïque, en principe.
La Turquie est un État laïque, il tient, et il y a une bonne partie de la population qui est fermement pour l'État laïque. Atatürk, ça a fait un peu le succès de la Turquie. Atatürk avait quand même réalisé un État laïque, uni, organisé, etc. On est dans une époque différente, une époque moderne, mais le souvenir d'Atatürk est toujours très très fort en Turquie. Atatürk est partout. C'est un État laïque, mais de religion musulmane. Donc le pays est laïque, mais la population est musulmane. Et on ne fait pas beaucoup de place aux autres
religions,
y compris surtout la religion chrétienne,
catholique, protestante,
qui est assez limitée, et en tout cas pas suffisamment comme le voudraient les critères de Copenhague. Donc là, il y aura de grands progrès à faire et ça va demander encore beaucoup de temps, à mon avis. Et ce sera un des points d'achoppement, ou en tout cas un des points difficiles de la fin de négociation. La réforme de la justice n'est pas complète aussi, puisque dans tous les lieux du pays, on n'applique pas encore ces lois de l'Union européenne, ces directives de l'Union européenne qui devraient être appliquées, qui ne le sont pas encore. Le droit des minorités aussi. Alors la question kurde, on la connaît, elle revient régulièrement sur le tapis. Des progrès sont faits, mais il y a toujours des affrontements, sans savoir vraiment d'où ils viennent, à qui revient la faute. Est-ce que c'est les Kurdes qui, au départ, sont intervenus dans telle région et que la police est intervenue contre une manifestation, ou c'est l'inverse, une provocation? C'est assez compliqué, le pays est grand et on n'a pas toujours le... Je suppose que la vérité est peut-être entre les deux. Et en tout cas, c'est assez difficile. C'est un problème que la Turquie connaît, que les critères de Copenhague critiquent et condamnent et qui ne sont pas respectés comme le souhaiteraient les critères de Copenhague. Et l'Union européenne en tient compte dans tous ses rapports, c'est précisé et simulé. Donc c'est vrai que ça existe. Encore une fois, là, des progrès sont faits. Il y a des députés kurdes au Parlement, il y a beaucoup de choses en fait. Mais on n'est pas encore, si vous voulez, au moment où l'Union européenne dira « bon, c'est pas parfait, mais on accepte », on n'en est pas encore là. Voilà.
Bien. Il y a donc des améliorations à attendre dans ces différents domaines.
Et cela va prendre beaucoup de temps.
Donc, lors de votre prochaine mission, sans doute en 2009, peut-être en 2009. Vous allez
voir cela
poursuivre votre évaluation du respect des critères.
Eh bien, on va mettre à jour notre évaluation, voilà. Si vous voulez. Peut-être qu'entre-temps, les choses ont évolué de façon satisfaisante et nous le dirons, bien sûr. Comme nous disons ce qui ne nous paraît pas parfait.
La Turquie est un pays carrefour qui a une importance géostratégique extrêmement importante. Je voulais aussi vous demander quelles sont les relations que la Turquie entretient actuellement avec ses différents voisins, à la fois la Grèce, Chypre, l'Arménie, ses voisins du Caucase et peut-être d'autres pays du Moyen-Orient. Est-ce que rapidement vous pouvez nous brosser un tableau géopolitique de cette situation?
Alors, il est intéressant de voir que la Turquie est un pays, et ce qui explique assez bien, ou ce qui expliquerait, que l'Europe aurait vraiment besoin de la Turquie, parce que la Turquie a une position géostratégique des plus importantes pour l'Europe. Parce que c'est, si vous voulez, un pays qui entretient de bonnes relations avec, disons, pratiquement tous les pays de la région, tous ses voisins du nord, du sud, de l'est, le Caucase, par exemple, mais aussi les pays au nord de la Turquie, les pays au sud de la Turquie. Alors, si vous regardez la carte, vous vous rendez compte qu'il y a quand même, après la Turquie, un certain nombre de pays à problème, disons, pour la diplomatie internationale ou pour la communauté internationale, qui sont l'Iran, l'Irak, la Syrie, tous ces pays-là, avec les problèmes du Proche-Orient qui viennent s'y ajouter. Si la Turquie, et c'est ce que reprochent certains, si la Turquie entrait dans l'Union européenne, nous serions une frontière commune avec l'Iran, avec la Syrie, avec l'Irak. Alors la Turquie est un, stratégiquement parlant ou militairement parlant, une sorte d'état tampon entre l'Union européenne et ces pays-là. Géographiquement, ça s'explique très bien. Militairement, ça s'explique encore mieux. Rappelez-vous que la Turquie est quand même un pays important de l'OTAN et qu'à l'époque de l'Union soviétique, le flanc sud de l'OTAN était un des éléments clés pour la sécurité de l'Europe face à une Union soviétique à certaines époques agressive envers l'Europe occidentale. Donc la Turquie a cette position géostratégique des plus importantes. Ces relations, elles sont aussi étonnantes parce que la Turquie entretient des relations avec les pays musulmans du sud, avec les pays arabes. Rappelons que la Turquie n'est pas un pays arabe et que les musulmans turcs ne sont pas des arabes, comme les Iraniens d'ailleurs, mais entretient des relations avec la Syrie, avec tous les pays du sud, la Jordanie et autres, et l'Irak. Mais la Turquie entretient de bonnes relations avec Israël aussi. Et ça, c'est quand même important. Et c'est sous l'égide turque qu'Israël négocie, souvent en secret d'ailleurs, mais aussi assez ouvertement, tant avec les Palestiniens qu'avec la Syrie. Les Israéliens négocient avec les Syriens à travers les Turcs ou grâce aux Turcs. Les Turcs sont intervenus à plusieurs reprises, en Irak aussi, pour des négociations. Les Turcs aident Israël, y compris sur le plan militaire, puisqu'il y a des manœuvres communes, des manœuvres aériennes d'ailleurs, avec Israël. Sur le plan de l'aide aussi, la Turquie livre de l'eau à Israël, c'est bien connu. Je veux dire qu'il y a des relations avec ces pays qui amènent la Turquie à avoir des relations aussi bien avec les pays arabes qu'avec Israël, et qui, pour l'Europe, est peut-être un des pays qui peut aider justement dans la recherche d'une solution au Proche-Orient. Pas trouver la solution, mais en tout cas aider la recherche de cette solution. Donc vous voyez, il y a une relation. Alors, il y a des relations, vous me direz aussi, avec les pays comme la Grèce, qui, historiquement, on le sait, sont deux pays qui s'affrontent volontiers et régulièrement.
La Grèce qui est dans l'Europe.
Voilà. Alors, maintenant, la Grèce est dans l'Europe. Le seul différent qui existe encore, je crois, entre la Grèce et la Turquie, si je puis me permettre, c'est Chypre, puisque Chypre a été admise en tant que telle dans l'Union européenne. Et donc, on a aujourd'hui cette situation un peu particulière et bizarre, c'est que nous avons au sein de l'Union européenne un territoire qui est turc, considéré par les Turcs comme turc, considéré par les Européens comme membre de l'Union européenne, mais qui n'est pas sous contrôle de Chypre, du gouvernement chypriote. Donc nous avons une situation très particulière. On a essayé de trouver des solutions. Nous avons posé, nous, la question, bien sûr, à tous les hommes politiques turcs, qu'est-ce qu'on fait de Chypre et comment la solution peut intervenir. Les autorités turques, y compris au plus haut niveau, nous ont dit, mais si la Cour internationale reconnaît le droit de Chypre à l'ouverture de ports et d'aéroports sur le territoire turc, nous l'accepterions. Pour l'instant, la question n'est pas encore posée. Il est dommage que le référendum de l'ONU n'ait pas fonctionné et que Chypre n'ait pas pu être réunifié. Je crois que des progrès sont faits dans cette direction et que la Turquie va aller tout doucement vers une solution. Mais d'un autre côté, les Turcs, dans la négociation sur le plan diplomatique, n'ont pas intérêt à accepter tout de suite une solution pour Chypre, car ce n'est pas une monnaie qui leur restera pour mettre sur la table après. De notre côté, la Grèce peut aussi dire « Écoutez, nous, on accepte la Turquie dans l'Union européenne à condition que la solution de Chypre soit trouvée. » Vous voyez, il y a encore des négociations en cours et tout ça retarde un petit peu. Et puis, il y a la grande question de l'Arménie. Alors, là aussi, certains progrès ont été faits. On se rappelle que le président turc, M. Gül, qui est un amateur de football, est allé à un match de foot en Arménie, que les choses... Très souvent, on commence par le sport, d'ailleurs, pour améliorer les relations. Mais disons qu'on n'en est pas là. Tout cela parce que l'Arménie demande la reconnaissance du génocide par la Turquie, que la Turquie ne reconnaît pas comme un génocide. D'ailleurs, on ne va pas revenir sur ce débat qui pourrait nous amener à discuter pendant des heures. Mais il y a une chose intéressante, que certains de nos interlocuteurs en Turquie nous disaient que si la Turquie devait reconnaître, entre guillemets, le génocide arménien, cela risquait d'amener la Turquie à la même solution, enfin la solution, la même condition que l'Allemagne, c'est-à-dire de rembourser tous les dommages et intérêts que ce génocide
aux Arméniens. A provoqué tout ce qu'a provoqué.
Donc la Turquie ne pourrait pas le faire et donc c'est quelque chose qui matériellement lui est impossible. Pour l'instant, il y a un progrès qui est fait puisque des deux côtés, on semble avancer vers une, disons, la mise en place d'un colloque ou d'une commission d'historiens de haut niveau sur terrain neutre, des historiens qui pourraient justement avancer dans l'explication historique de ce qui s'est passé, car pour l'instant, chacun dit ce qu'il veut et personne n'accepte ce que dit l'autre. Mais s'il y a une commission d'historiens avancée dans cette direction, je crois que ça serait, c'est ce que nous avons recommandé lors de notre voyage d'ailleurs, c'est ce qui serait peut-être un moyen, sur le plan au moins intellectuel et culturel, d'avancer vers une meilleure compréhension et qui dit mieux se comprendre, dit mieux accepter aussi, peut-être un jour, d'avancer. On est loin encore de la réconciliation, parce que pour réconciliation, comme on le sait, il faut le pardon, que personne pour l'instant n'est prêt, semble-t-il, à pardonner, mais une explication historique serait nécessaire pour avancer dans cette direction. Je crois que là, il y a peut-être, disons, un tout petit créneau, mais un créneau quand même pour l'avenir.
Monsieur le sénateur, vous avez évoqué tout à l'heure en matière économique la dégradation, je crois, sérieuse des relations franco-turques que vous dénoncez dans votre rapport de 2008. Cela paraît d'ailleurs assez paradoxal alors que les relations entre la France et la Turquie remontent au XVIe siècle. Pourquoi cette dégradation qui semble s'être accélérée et accentuée entre 2005 et 2008 ? Et quelles peuvent en être les conséquences à la fois pour la France et pour la Turquie ?
Bon, je commence par la fin. Les conséquences, elles existent depuis cette époque. C'est les sociétés françaises qui travaillent en Turquie et qui travaillent très bien en Turquie et qui sont très heureuses d'y être. Et la coopération fonctionne parfaitement bien. Elles se développent, elles font des bénéfices au profit des Turcs et des sociétés françaises. Tout le monde profite du développement de cette économie grâce à ces sociétés françaises importantes qui sont là-bas, puisqu'il y a Renault, il y a l'EDF, il y a des grandes sociétés françaises qui sont sur place. Mais les coups de frein ont été donnés par les conséquences des déclarations politiques qui ont été faites en France à propos, justement, de la demande d'adhésion de la Turquie. Et la levée de bouclier des hommes politiques français, beaucoup d'hommes politiques français, des médias, mais aussi d'une partie de la population, contre l'adhésion de la Turquie, a, disons, choqué et déçu les Turcs. Parce que justement, comme vous le répétiez, ils ont souvenir d'un historique qui fait d'eux les amis privilégiés de la France, et ils se sont retrouvés un jour comme rejetés par la France, alors qu'il y a un besoin de France, une envie de France, un désir de France et un espoir que la France allait les faire avancer vers l'Union européenne. Ça avait été déclaré à plusieurs reprises par les dirigeants français. Et un jour, patatrac, ils se retrouvent face aux journaux qui titrent « La France est contre nous, la France ne veut pas de la Turquie dans l'Union européenne », etc.
D'où une forte déception.
D'où une forte déception, mais une explication de la réaction aussi. Parce que même si les dirigeants voulaient quand même imposer la France et les compagnies françaises, les sociétés françaises, la population, face au grand titre des journaux, vous avez quelquefois des journaux comme en Turquie qui tirent sur une demi-page ou une page un titre. Et à la vue de ces titres affichés dans les rues d'Istanbul ou d'Ankara, vous comprenez que la population suit ces slogans ou ces descriptifs assez approximatifs et accusateurs de la presse turque contre la France. Donc, il y a une réaction normale, humaine, disons, à rejeter. Et en pire que ça, parce qu'il se sentait un peu trahi, si vous voulez. La France était engagée pour la Turquie dans l'Union européenne, il se sentait un peu trahi. Et donc, on est d'autant plus virulent contre quelqu'un qui vous a trahi que contre quelqu'un qui ne vous soutient pas.
C'est du dépit amoureux.
C'est un peu du dépit amoureux, oui, exactement. Et donc, ça explique assez bien cette réaction qui existe sur le terrain et les sociétés françaises.
Et qui est dommageable et pour la France et pour la Turquie.
Et pour tout le monde. Je vous racontais une anecdote. Lorsque nous sommes allés voir le président Gül, que nous connaissons bien, avec qui nous sommes assez amis, dans son bureau de président, quand nous sommes arrivés, il nous a salués à la turque en nous embrassant, etc., ravi de nous voir. Et il avait un papier sur son bureau qu'il nous a transmis. C'était la décision de l'Assemblée nationale que venait prendre la veille l'Assemblée nationale en ce qui concerne le référendum pour l'adhésion à l'Union européenne, pour mettre dans le référendum au moment de la modification de la Constitution française. Et pour mettre dans la Constitution. Et le président turc dit, voyez, nos amis français veulent nous écarter un peu plus en mettant dans la Constitution. Alors nous sommes engagés à modifier cet amendement qui avait été déposé par l'Assemblée nationale et nous avons, avec Hubert Haenel, déposé un autre amendement au Sénat, avec la Commission aussi des affaires étrangères. Et cet amendement, finalement, a été adopté par le Sénat et nous avons été remerciés par le président par une lettre et puis un livre qu'il nous a envoyé pour nous remercier. Mais je veux dire par là qu'ils étaient tellement sensibles qu'il avait sur son bureau, vous voyez, la décision de l'Assemblée nationale qui n'était pas encore prise, qui était un amendement en discussion. Mais donc, ils sont très sensibles et ils suivent de très près tout ce qui se dit en France et toutes les déclarations des hommes politiques dans cette direction.
Pour renouer les liens aujourd'hui distendus entre nos deux pays, France et Turquie, vous préconisez quelques actions, et notamment des actions dans le domaine culturel et de la communication, pour améliorer la connaissance mutuelle, au fond, de nos deux pays, parce qu'il y a une part de méconnaissance.
Oui, j'y ajouterai un troisième point, le tourisme, et je vais vous expliquer après pourquoi. C'est vrai que lorsqu'on se connaît mieux, on se comprend mieux. Et les Français ne connaissent pas la Turquie, sauf sur ceux qui sont allés en vacances. Donc, il y a un besoin de connaissance. Et le besoin de connaissance passe par différents canaux. La communication, bien sûr. Il faut avoir une bonne communication et pas se laisser aller à une communication faussée par des déclarations, des contre-déclarations, des réactions dans la presse, mais une communication indépendante, juste et équilibrée. Il faut dire la vérité. Mais moi, je dis la vérité aux Turcs. Je dis, si vous continuez dans telle direction, ce n'est pas bon, ce n'est pas bien, ce n'est pas ce qu'il faut faire. Vous devez faire des progrès là, pour la religion, pour le droit des femmes. Et c'est bon. Faut me dire à un ami les choses vraies pour son bien, plutôt que de cacher ce qu'on aimerait qu'il fasse, et sachant très bien que ça ne lui servira pas et ce sera quelque chose de mauvais. Donc, il faut une communication à tous les niveaux, à haut niveau, mais aussi partout, et une communication équilibrée et nette. Ça, c'est un point important. Sur le plan culturel, la culture sert aussi à faire connaître les gens, à faire connaître le pays, à faire connaître... Les Turcs sont des gens très cultivés. Il y a en Turquie un grand nombre de gens qui parlent le français. Nous avons un grand nombre d'institutions culturelles françaises en Turquie.
Et de lycées français.
De lycées français, d'écoles françaises, d'écoles religieuses françaises même. Vous allez à Saint-Joseph, à Istanbul, qui est une école des frères chrétiens. Tous les élèves sont turcs. Il n'y a pas d'élèves français dans cette école. Tous les enfants sont turcs. Et ces enfants parlent français impeccable, sortent de cette école. Et d'ailleurs, vous vous retrouvez, ce qui est assez intéressant, à tous les niveaux de la société, tant sur le plan économique que diplomatique, que culturel, que politique. Lorsque vous rencontrez des politiques qui parlent parfaitement le français, vous dites, mais comment se fait-il que vous parlez si bien français? J'étais à Saint-Joseph. Donc, ils ont tous, beaucoup sont passés par nos écoles. Et donc, il y a une formation. Et ça explique aussi, donc, si vous voulez, cette déception qu'ils ont vis-à-vis de la France, parce qu'ils sont francophones, mais ils sont francophiles, surtout. Et ça, c'est très dommage de ne pas les utiliser, parce qu'en Europe, nous aurions un allié parfait. Les Allemands sont meilleurs que nous, parce qu'ils les utilisent très bien. voyez.
Avec et des instituts culturels.
Avec des instituts culturels, oui. Avec beaucoup de choses qu'ils font, mais aussi parce qu'ils ne prennent pas position officiellement contre eux. Et les Autrichiens sont encore meilleurs, parce qu'eux, on sait que les Autrichiens, s'il y avait référendum, je le disais, les gens ne voteraient pas pour l'adhésion de la Turquie. Mais lorsque nous étions à Ankara la dernière fois pour une visite officielle, il y avait dans les rues d'Ankara, bienvenue au président Fischer, le président autrichien, qui était en visite officielle là, avec des grands panneaux dans les rues d'Ankara. Vous voyez, alors qu'il y a une communication là qui était très positive, et les gens oublient que la population autrichienne n'était pas tellement pour. Bien, pour en revenir à ce point de vue de la communication, la culture. Donc, il y a le développement des institutions culturelles. Il y a l'année de la culture turque en France. Et ça, c'est très important. Je crois que là, il faut...
C'est cette année, je crois.
Oui, c'est cette année, justement. Ça va commencer là. Et il faut, comme disent les hommes de communication, bien vendre le produit et ne pas en faire quelque chose pour imposer aux Français l'année de la culture de la Turquie ou l'année turque de la culture en France. Il faut intéresser le public français par des manifestations, par des expositions. Et je crois que ça se prépare assez bien en ce moment et que ça va intervenir très bientôt, là, au printemps. Donc, je pense que ça va bien se passer. Et puis, il y a un autre point qui n'est pas signalé ni dans le rapport, ni rien, que moi, je voudrais mettre en avant. C'est le tourisme. Plus les gens connaissent un pays, plus ils acceptent ce pays. Beaucoup de gens rejettent la Turquie parce qu'ils ne connaissent pas du tout la Turquie. Et ils n'ont de la Turquie que ce qu'en disent les journaux ou la télévision. Vous savez, dans le cadre de l'adhésion à l'Union européenne, rappelez-vous, certains s'en rappellent encore facilement, de l'adhésion de l'Espagne. Moi, je me souviens très bien, j'étais jeune, je me souviens très bien de cette adhésion de l'Espagne. Rappelez-vous les camions de légumes espagnols qui étaient détournés à la frontière, brûlés, renversés, incendiés, parce que les Français ne voulaient pas des légumes espagnols ou des fruits et des légumes espagnols en France. C'était une vraie révolution. Il y avait des barricades sur les routes pour empêcher les Espagnols de venir en France. Les Français étaient contre l'entrée des Espagnols parce qu'ils disaient « On a déjà beaucoup d'Espagnols en France, il y en aura encore plus, ils viendront tous travailler en France, ils vont prendre tous les jobs, etc. etc. » etc. Et puis, il y a eu le développement du tourisme français en Espagne. D'abord 100 000, puis 200 000, 500 000, 1 million. Des millions de Français sont allés en Espagne en vacances l'été. Et ils sont revenus avec une autre image de l'Espagne, une bonne image de l'Espagne. Et finalement, l'entrée de l'Espagne dans l'Union européenne s'est passée très bien pour la France. Et d'ailleurs, tous les arguments qui étaient donnés contre l'entrée de l'Espagne sont tombés les uns après les autres, y compris l'invasion des Espagnols sur le travail, sur le marché du travail, puisque l'Espagne s'est développée à tel point que c'était les Français qui allaient travailler en Espagne, parce que l'Espagne s'est développée économiquement de façon formidable, grâce à l'Union européenne, c'est vrai, mais c'est très bien développé. Donc, et ça, je dirais, c'est grâce au tourisme. Ce n'était pas grâce aux explications politiques ou autres, c'est grâce au tourisme, parce qu'il y a eu des millions et des millions de Français qui sont allés en Espagne, qui ont connu l'Espagne, l'ont apprécié. Je dis toujours à nos amis turcs, essayez de faire une grande communication sur le tourisme en Turquie, faciliter, augmenter le nombre d'avions, des prix bon marché, des voyages importants, qu'il y ait beaucoup, beaucoup de Français. Lorsque des millions de Français seront allés en Turquie, la position de la France changera, en tout cas de la population.
Le regard de la France sur la Turquie changera. Pour terminer cet entretien, j'avais deux questions rapides. La présidence française de l'Union européenne qui vient de se terminer a-t-elle permis une avancée dans ses relations franco-turques? Et puis aussi, comment voyez-vous à terme et à quelle échéance l'issue des négociations d'adhésion de la Turquie? Est-ce qu'il y a encore, malgré tout, aujourd'hui, une envie d'Europe majoritaire en Turquie? Et pensez-vous que la Turquie et l'Union européenne ont un avenir et un destin commun? Donc, plusieurs questions, mais au fond, aujourd'hui et demain.
Aujourd'hui et demain. La présidence française, tout d'abord. La présidence française a dû être présidente de l'Europe. Et le président français a agi en tant que président de l'Europe et pas en tant que président français. Donc, on ne peut pas dire que c'est la France qui a aidé ou qui n'a pas aidé. La présidence a été relativement neutre en ce qui concerne la Turquie, puisqu'un chapitre a été rejeté, deux autres ont été ouverts, je crois. Donc, on a avancé, mais pas vraiment et pas beaucoup. Parce que l'Union européenne, parce que le rapport de l'Union européenne était un peu négatif, parce qu'il n'y avait pas d'avancée importante en ce qui concerne la Turquie. Donc, on a suivi le chemin normal, mais on n'a rien apporté vraiment de très important. Mais on n'a pas empêché non plus les choses d'avancer. Donc voilà, donc je dirais que c'est relativement neutre pour la Turquie. Et c'était bien ainsi, parce qu'on se serait fâché avec un ou avec l'autre si nous avions fait un pas dans une direction qui ne devait pas plaire à l'autre. Donc on a joué le rôle de la présidence française et on l'a bien joué. Mais il y avait aussi d'autres sujets, il faut dire, d'actualité à l'époque, la Géorgie et autres, qui ont préoccupé et occupé la présidence française à cette époque-là. Ça, c'est pour la présidence française. Alors maintenant, il y a encore une envie d'Europe, il y a encore un désir d'Europe, il y a encore un espoir d'Europe en Turquie. Il n'est pas partagé par l'Union européenne, par les pays de l'Union européenne ou par les populations des pays européens, comme il pourrait l'être. Mais vous savez, les choses vont se continuer. Là, on parle, comme je le disais tout à l'heure, à une réflexion à 12 ans ou 15 ans. Qui peut nous dire aujourd'hui comment sera l'Europe dans 15 ans? Qui peut nous dire aussi, surtout aujourd'hui, que sera la Turquie dans 15 ans? Est-ce que la Turquie va tellement se développer économiquement que ce sera un concurrent trop difficile, trop dangereux, même pour l'Union européenne, trop important? Pourquoi pas? Il y a des moyens, il y a des capacités, il y a un potentiel de développement économique très très important en Turquie. Est-ce que la Turquie va aller dans la bonne direction, essayer de répondre aux critères de Copenhague? On l'espère tous. Est-ce qu'elle va se rapprocher, continuer à se rapprocher de l'Europe comme nous le souhaitons, comme nous le voulons? Ou bien est-ce que des événements politiques en Turquie vont la faire se tourner vers d'autres cieux, d'autres pays, vers d'autres régions géographiques, le Caucase, mais aussi peut-être le Sud? On ne sait pas aujourd'hui. Et il est très difficile aujourd'hui. Les prévisions sont toujours très difficiles, surtout lorsqu'elles concernent l'avenir. Et donc, on ne peut pas aujourd'hui dire exactement ce qui se passe. Par contre, on peut dire ce qui ne va pas se passer, ou envisager en tout cas ce qui risque de ne pas se passer. Je ne pense pas que la Turquie aujourd'hui puisse répondre à 100% à tous les critères de Copenhague dans ce laps de temps d'une dizaine, douzaine d'années. Pourquoi? Parce que c'est assez profond ce que nous demandons, ça va assez loin. Les valeurs de l'Union européenne sont difficilement assimilables à une tradition turque dans certaines régions de Turquie. Ça va se faire, ça peut se faire, ça doit se faire, mais il faut peut-être un peu plus de temps. Et puis, on risque d'arriver à une situation. Il y a deux hypothèses de travail là. Il y en a une où on dit, bon, on a fait assez de progrès, la Turquie est prête à entrer dans l'Union européenne, mais à ce moment-là, qui va l'accepter? Puisque certains pays ont annoncé des référendums, on sait très bien qu'un référendum est très, très dangereux et qu'il faut vraiment une très grande volonté de la population pour répondre oui à un référendum. Je crois qu'aujourd'hui, en France, aucun référendum ne passerait facilement. Ce serait très, très difficile. Donc, je crois qu'il vaut mieux ne pas faire de référendum. Mais la France n'est pas seule. Il y a d'autres pays. Je vous le disais, l'Autriche, mais aussi le Danemark. Il y a aussi d'autres pays qui seraient contre l'entrée de la Turquie dans l'Union européenne. Alors, face à cette situation de la Turquie, dont on ne sait pas encore si elle va tout à fait être à la hauteur, entre guillemets, des critères de Copenhague, pouvoir les respecter et faire appliquer les valeurs de l'Union européenne, respecter les valeurs de l'Union européenne dans le pays, dans tout le pays. Et de l'autre côté, les gens qui sont prêts à voter contre l'adhésion, la Turquie se retrouve devant un dilemme. Que faire lorsqu'on arrivera au bout des négociations? Eh bien, la réponse m'a été donnée par quelques parlementaires et responsables turcs qui évoquaient une situation qui serait la suivante. Si nous demandons l'adhésion, nous répondons à tout, et que un référendum dans un pays, alors on m'a cité le Luxembourg, qui n'était pas en ligne de compte, mais parce que c'est un petit pays, où 55 millions de Luxembourgeois pourraient rejeter l'adhésion de la Turquie. Comment voulez-vous que nous, un peuple fier de 80 millions d'habitants, acceptions d'être rejetés d'une entité comme l'Union européenne par 55 000 voix dans un pays de l'Union européenne? Ce qui pourrait très bien arriver sur le plan électoral et en tout cas sur le plan politique. Comment pourrions-nous accepter cela? Qu'est-ce qui se passerait dans ce cas-là? Ils me disent, nous serions dans une situation très difficile parce que les extrémistes dans notre pays qui ont fait campagne et continuent à faire campagne contre l'adhésion à l'Union européenne, pour diverses raisons religieuses, diverses raisons, ces gens-là vont se sentir renforcés. Et aux élections suivantes, ils risquent d'obtenir la majorité contre l'AKP. Et donc notre pays serait dans une situation très grave. Donc pour éviter cela, quelle serait la solution? Eh bien, me disent-ils, nous dirions à l'Union européenne, nous ne pouvons pas entrer en ce moment dans l'Union européenne complètement, mais nous demandons un système qui nous permet d'être accolés à l'Union européenne avec tous les avantages, sans être membre à part entière définitivement et appelé comme tel. ce qui donnerait une solution bâtarde, si vous voulez.
De partenaire privilégié.
De partenaire, tout à fait, même plus que partenaire privilégié. Disons que partenaire associé ou privilégié associé, etc., il faudra trouver une expression pour ça, mais un partenaire qui soit collé à l'Union européenne sans être dedans complètement. Ce qui satisferait un peu tout le monde. Et nous avons besoin, je crois, de la Turquie en Union européenne comme allié très, très, très proche. Et ça serait peut-être la solution. Si nous n'arrivons pas à l'adhésion, ce qu'on peut peut-être espérer un jour, plus tardivement, on pourrait en tout cas en arriver à cette solution qui serait une solution acceptable par tous.
Merci, monsieur le sénateur, pour ces perspectives. La Turquie et l'Europe ont donc un avenir et un destin commun en tout état de cause. Pour en savoir plus, je conseille à nos auditeurs, donc à propos de l'Union européenne et de la Turquie, de prendre connaissance des 3 rapports de monsieur Robert Del Picchia. Ils sont accessibles sur le site du Sénat, www.senat.fr, ainsi que sur le site de Canal Académie. Prenez aussi connaissance, pour ceux qui s'intéressent aux questions concernant les Français établis hors de France, du site expatriés.senat.fr, le site du Sénat au service des Français de l'étranger. Et puis, écoutez nos émissions, les consulats au service des Français de l'étranger, émission avec Alain Cata, diffusée le 29 juin 2008. Et sur la Turquie, 2 émissions un peu anciennes, mais toujours intéressantes, de Thierry de Montbrial, membre de l'Académie des sciences morales et politiques, directeur général de l'IFRI, sur la Turquie dans l'Europe et Europe, la question turque, diffusée le 4 septembre 2006. À bientôt et merci, monsieur le sénateur, au nom de tous les auditeurs de Canal Académie.